Alors ce matin, je vais vous inviter à tourner avec moi dans la première lettre des Thessaloniciens, au chapitre 4. Alors plusieurs d'entre vous me connaissent ou le savent déjà. Mais étant plus jeune, j'ai fait des études d'hôtellerie et par la suite, j'ai fait des études de boulangerie-pâtisserie. Alors, un jour, un professeur est venu me trouver en me demandant si je voulais participer à un concours de pâtisserie qui se faisait au niveau national. Alors, bien sûr, j'ai accepté avec joie, hein. Et le but de ce concours, c'était de faire préparer un gâteau, donc un entremets, à base de mandarine Napoléon. Et pour cela, il y avait un temps imparti. Le temps est parti, je pense que c'était plus ou moins 6 heures. Alors, plusieurs semaines avant le grand jour, le jour du concours, mon professeur m'a conseillé, m'a entraîné et m'a dit exactement ce que je devais faire pour être prêt le jour J. Et après cela, j'ai fait de nombreux essais, et une seule fois, je suis arrivé à faire le gâteau qu'il fallait. À partir de ce jour-là, ben, c'était acquis. J'ai arrêté de m'entraîner jusqu'au jour du concours. Quelques semaines après, le concours arrive, la journée était une catastrophe. Le gâteau que j'ai réalisé ne correspondait pas du tout aux attentes du professeur, et encore moins aux miennes. C'était vraiment une catastrophe. J'ai pas gagné le concours, bien sûr, et en plus j'étais mal classé. Je pense qu'on était 12, j'étais peut-être 11e sur 12. Mais voilà, le professeur m'avait choisi parmi tous les élèves de l'école de Liège, et m'avait clairement enseigné comment arriver pour être prêt le jour du concours. Mais à cause de ma paresse, de mon oisiveté, pardon, et parce que je me suis reposé sur mes acquis, j'avais réussi une fois, donc je me suis dit que c'était bon, je n'ai pas été prêt au moment voulu. Mais vous, êtes-vous des personnes qui vous reposez sur vos acquis? Êtes-vous quelqu'un qui veut plaire à celui qui l'a enseigné et qui lui a tout donné? Alors le texte que nous allons étudier ce matin, dans la première épître aux Thessaloniciens, est un texte pour moi qui est charnière entre la première partie et la deuxième partie des Thessaloniciens. Donc je m'explique. Dans les trois premiers chapitres, nous découvrons que l'apôtre Paul a implanté cette église de Thessalonique. On peut lire par exemple au chapitre 1, verset 5, si vous avez votre Bible ouverte. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Et un peu plus loin, verset 9 du premier chapitre, de fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous. On pourrait encore citer d'autres versets, hein, mais ici on comprend bien que Paul était directement en contact avec ces personnes à qui il s'adresse dans la lettre. Alors dans le livre des Actes, on peut encore apprendre davantage sur cette église à Thessalonique, et au chapitre 17, pour ceux qui prennent des notes, acte 17. Et alors, malgré le bon accueil que les gens de Thessalonique ont eu de l'évangile, que Paul et Silas leur ont apporté, il y a un groupe de juifs qui voulait se battre contre ça, qui créait des attroupements et qui voulait semer le trouble dans la ville. Et suite à ces événements, qu'est-ce que Paul et Silas ont dû faire? Ils ont dû quitter cette ville rapidement et n'ont pas pu rester longtemps sur place. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Paul a quitté l'église rapidement. Il s'est tracassé de cette église. Il a voulu prendre des nouvelles. Il se demandait comment l'église allait continuer. Alors, il a trouvé une solution, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son ami, son compagnon, son fidèle compagnon, Timothée, afin de, comme on dit, prendre la température, voir comment l'église se comporte. Timothée est revenu, a donné des nouvelles à Paul, et qu'est-ce que Paul, les nouvelles que Timothée a rendues? Les nouvelles réjouissantes. Paul s'est réjoui de ce que Timothée lui a ramené. Les Thessaloniciens sont restés attachés à la parole. Ils ne se sont pas détournés de la parole de l'évangile. Leur foi et leur amour étaient restés intacts. Alors Paul aurait pu s'arrêter à cet endroit dans la lettre à Thessaloniciens. Mais non, il ne le fera pas, parce qu'il a conscience du problème que certains pouvaient se reposer sur leurs acquis. Et il ne veut pas attendre d'aller les revoir pour les mettre en garde et pour ajouter ce qui manque à leur foi. En sachant que ces jeunes chrétiens ont bien compris et saisi les vérités, ont pas bien, par exemple, compris les vérités du retour de Christ, C'est ce qu'on voit dans la deuxième partie de la lettre. Paul va écrire les 12 versets que nous allons lire. Donc il y a la première partie où Paul se réjouit parce que les Thessaloniciens sont attachés à la parole. La deuxième partie, on voit que les Thessaloniciens sont un peu perturbés avec le retour de Christ. Et ici, entre ces deux parties, Paul va écrire les 12 versets du chapitre 4 de la lettre. Avant de lire la parole, on va prier. Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur, ton aide, Seigneur, ce matin, pour que tu puisses ouvrir les yeux, Seigneur, de nos cœurs, Seigneur, pour qu'on puisse encore ensemble, Seigneur, méditer ta parole, Seigneur, et découvrir, Seigneur, ce que toi tu veux dire à nos cœurs, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ce que tu veux changer dans nos vies, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ce que tu veux enlever, Seigneur, pour remplacer, Seigneur, par ton amour, Seigneur. Amen. Alors, lise avec moi le verset 1 du chapitre 4 de la première lettre aux Thessaloniciens. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Vous savez en effet quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans la livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits. Parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Verset 8. « Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu au sujet à vous aimer, pardon, les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine tout entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendant de personne. Alors, dans un premier temps, on va regarder les deux premiers versets de ce passage. Et nous allons voir quelle est la source pour notre progression. Quelle est la source pour que nous progressions davantage? Alors, quand nous commençons à lire les deux premiers versets, nous voyons qu'il y a quelque chose qui saute aux yeux. Il y a un rapport étroit avec ce qui précède. Il est écrit « Maintenant donc que vous savez ces choses, alors agissez en fonction ». Nous pouvons constater aisément que Paul veut insister sur le fait qu'ils connaissent la manière dont ils doivent se conduire. Il écrit « Vous avez appris de nous. Vous savez en effet quelle instruction nous vous avons donnée. » Alors les Thessaloniciens n'ont aucune excuse, aucune. Enfin, en fait, du moins, ils ne peuvent pas sortir leur carte joker et dire « Ah, mais je ne savais pas comment je devais me comporter dans ma vie chrétienne. » Non, ils sont au courant de ce que Dieu veut pour eux. Cela a été annoncé à plusieurs reprises. Paul leur demande de faire du progrès sur une voie qu'il leur avait déjà tracée, la seule sur laquelle ils peuvent marcher pour plaire à Dieu. Quand je dis qu'ils n'ont aucune excuse possible, cela peut sembler peut-être un peu dur et accusateur. Et je dois avouer que c'est pas vraiment ce que reflète le texte ici. Paul, à cet endroit, a d'autres intentions. Ici, Paul veut les encourager à progresser davantage dans leur conduite et dans leur attachement à Dieu. Et tout cela, il le fait dans la continuité des trois premiers chapitres, où il leur rappelle comment il s'est conduit lui-même parmi eux, d'une manière sainte, juste et irréprochable. Et aussi en leur rappelant la conduite qu'il leur avait enseignée. Ils devaient marcher d'une manière digne de Dieu. C'est pour cela qu'il est en train de leur dire, mais vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. C'est vrai, vous êtes des chrétiens fidèles et vous obéissez déjà. Mais vous devez progresser davantage. Et pour cela, vous êtes équipés. Vous avez tout ce qu'il faut. Alors voyons maintenant quelle est cette source. Quelle est la source? C'est l'enseignement qu'ils ont reçu et qui est pour eux le moyen de progresser. Ce qui est réjouissant, c'est de voir que cet enseignement n'est pas quelque chose sans valeur ou peu fiable. Cet enseignement qui leur a été apporté par des hommes, mais il a une autorité qui vient de Jésus-Christ. L'autorité de cet enseignement émane de celui qui est la vérité et est la vérité. Alors on pourrait faire ressortir plusieurs versets du chapitre précédent pour trouver la réponse à notre question. Pour cette source, quel est cet enseignement? Mais regardez avec moi uniquement le verset 13 du chapitre 2. Verset 13 au chapitre 2. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez accueilli, non comme la parole des hommes, non comme la parole des hommes, mais comme celle qui est vraiment la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. La parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Ce verset me semble parler de lui-même. L'enseignement qu'ils ont appris et reçu est la parole de Dieu. Dans ce même chapitre, le chapitre 2, nous avons à 4 reprises que la parole de Dieu est assimilée à l'évangile. Alors je vais juste citer les versets pour ceux qui prennent des notes. Le verset 2, vous pouvez regarder le verset 4, le verset 8 et le verset 9. Vous allez voir que la parole de Dieu est en parallèle avec l'évangile. La source de notre progression dans la vie chrétienne est l'enseignement que nous avons reçu de Dieu, sa parole, son évangile. Restons attachés à la parole et à l'évangile de Dieu si nous voulons progresser dans notre vie chrétienne. Mais nous ne pouvons pas progresser non plus si nous ne demandons pas l'aide à Dieu de nous remplir de son Saint-Esprit aussi. Si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez, nous dit Romains 8. Je répète, si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Le Saint-Esprit est indispensable. Indispensable pour nous faire découvrir et réaliser les merveilles de l'Évangile, les merveilles de la parole de Dieu. Alors même si cela n'est pas enseigné directement dans le texte, ici vous allez me dire que je parle du Saint-Esprit alors qu'on ne le voit pas dans le texte, mais nous voyons que Paul s'y attache quand même. Si vous regardez avec moi le verset 8, parce qu'il dit « Dieu nous a donné aussi le Saint-Esprit ». Les chrétiens qui cherchent à mieux connaître Dieu, à l'aimer davantage et à lui obéir plus fidèlement, doivent vivre selon les commandements de l'Écriture. Ainsi, ils pourront progresser vers l'excellence spirituelle par la puissance de Christ en eux et par leur obéissance à la vérité de la parole. Alors que ce soit le matin, que ce soit le midi, que ce soit le soir, ou que ce soit chez vous, dans le salon, dans la chambre, dans la cuisine, que ce soit dans le train, quand nous lisons la Bible, que ce soit n'importe où, n'importe quand nous lisons la Bible, recherchons avec hardiesse comment progresser dans notre marche avec le Seigneur. Et cela n'est pas toujours facile. Il y a des textes difficiles dans la parole où on ne peut pas toujours comprendre comment Dieu veut que nous progressions dans notre vie. Alors prions et demandons à Dieu l'aide. Alors peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ne sont pas habituées à lire la Bible régulièrement ou chaque jour. Alors je peux les encourager à peut-être ne pas commencer à lire un livre en entier, ça peut être décourageant. Mais peut-être juste lire un chapitre par jour. Cela va leur permettre de rester fidèles dans leur engagement à la lecture de la Bible, de la parole de Dieu. Et par la suite, ils seront encouragés à lire et à méditer plus longtemps cette parole. Mais maintenant que nous avons vu quelle est la source de notre progression, de notre marche avec Christ, nous allons regarder ensemble Les deux domaines dans lesquels l'apôtre Paul, ici dans le texte, nous encourage à progresser. Alors, le premier domaine que nous allons voir, c'est au verset 3 à 8. Le premier domaine de progression est la sainteté. Paul nous encourage à progresser dans la sainteté. Lisez avec moi les versets 3 à 8. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse du tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Alors le verset 3 nous met directement dans le bain ici, en affirmant que ce que Dieu veut pour ses enfants, c'est que nous progressions dans la sainteté. Nous avons affaire ici à un commandement de Dieu pour nos vies, pour ma vie, pour votre vie. Nous devons progresser dans la sainteté. Alors si Paul, dans ce passage, met en avant les risques qu'il y a pour les habitants de Thessalonique de tomber, par exemple, dans l'immoralité sexuelle, c'est parce qu'il a une très bonne connaissance de l'Église de Thessalonique et des villes aux alentours. Le comportement sexuel a été assez libre dans l'Empire romain à cette époque. Donc, compte tenu de la culture environnante, Paul considère que le plus important pour les Thessaloniciens était leur recherche dans leur sanctification et de s'éloigner de la débauche. Alors, si on lit les épîtres de Paul, on remarque facilement et aisément que ici nous ne sommes pas dans un avertissement unique de la parole. À de nombreuses reprises, Paul nous exhorte à fuir nos propres désirs et à nous abstenir de l'immoralité sexuelle. Mais qu'est-ce que l'immoralité sexuelle? Alors, pour la définir simplement, je dirais qu'il s'agit de toute relation sexuelle qui sont en dehors du cadre que Dieu a défini. Dieu a créé le désir et l'activité sexuelle pour que nous remplissions la terre et pour que nous en retirions du plaisir. Mais aussi et surtout comme une expression d'amour entre conjoints. Vous aurez compris, le cadre que Dieu a défini pour les relations sont le cadre du mariage. Les seules relations sexuelles que Dieu approuve sont celles entre un mari et une femme. Depuis toujours, les hommes et les femmes sont tentés d'avoir des relations qui déplaisent à Dieu. Mais s'il vous plaît, relisez avec moi le verset 4 et le verset 5. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Il nous est demandé ici de ne pas succomber à nos mauvais désirs en passant à l'acte. Ce verset nous montre que le désir est une chose, mais que passer à l'acte est bien pire. Donc je m'explique, je ne veux pas ici minimiser les mauvais désirs, parce que vis-à-vis de la justice de Dieu, on est condamnable pour nos mauvais désirs. On est condamné, on est séparé de Dieu. Mais si nous laissons submerger par les désirs et que nous passons à l'acte, les conséquences sont toujours douloureuses et dramatiques. Aussi, sachez que le péché sexuel amènera toujours de nombreux problèmes dans vos familles, au travail, à l'église. Alors vous pourriez me dire, mais comment tu sais cela? Moi je pourrais vous dire, parce que j'ai un peu d'expérience. Non. Regardez avec moi dans le texte, regardez, soyons attentifs à ce que la Bible nous dit. Et on trouve cet avertissement au verset 6. C'est que personne dans ce domaine ne fasse du tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits. Tout péché d'ordre sexuel cause du tort à son frère et ou à sa sœur. En règle générale, une mauvaise manière d'agir est suivie de plus de conséquences négatives qu'un mauvais désir. Alors je répète, en règle générale, une mauvaise manière d'agir est suivie de plus de conséquences négatives qu'un mauvais désir. Et je me suis posé la question, et si Paul, aujourd'hui, écrivait à notre Église, si Paul écrivait à l'Église de Glaye aujourd'hui, qu'est-ce qu'il écrirait? Alors, dans un premier temps, il écrirait certainement la même chose, c'est sûr. Je vous encourage, mes frères et sœurs de l'Église de Glaye, à garder vos pensées captives en Jésus-Christ, afin de ne pas vous laisser diriger par vos mauvais désirs, et afin que vous ne commettiez pas l'irréparable en ayant des relations hors mariage. Puis il pourrait aussi ajouter d'autres choses, plein d'autres choses. Ajouter de s'abstenir de passer trop de temps devant nos écrans de téléphone, par exemple, ou de GSM, qui nous pousse à jalouser les autres, à attiser notre curiosité malsaine. Et d'autres choses, Paul aurait pu rajouter. Notre priorité pour notre vie chrétienne doit être de plaire à Dieu. Et ce qu'il veut pour ses enfants, c'est que nous progressions davantage dans la sainteté, dans notre attachement à lui. En relisant la fin du verset 5, nous comprenons bien ce que Dieu veut pour nous est bien différent de ce qu'il veut pour le monde. La différence doit être flagrante entre l'homme qui connaît Dieu et l'homme qui ne connaît pas Dieu. Dieu veut être glorifié par notre conduite. Paul s'inquiète que nous retombions dans nos vieilles habitudes. Dieu veut que nous aspirions davantage à la sainteté, que nous aspirions à nous détacher le plus possible du péché, duquel nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Et Paul et Dieu veut qu'on se détache de ça. Les chrétiens de Thessalonique, sont des croyants authentiques. Et les trois premiers chapitres nous l'affirment, lisez-les chez vous. Mais ils doivent encore apprendre qu'une foi pleine est une foi d'obéissance. Une foi pleine est une foi d'obéissance. Quand Dieu a manifesté sa grâce envers nous, il nous a appelés à la sainteté et non à l'impureté, verset 7. L'impureté reflète parfaitement ce que nous étions auparavant, quand nous ne connaissions pas Christ. Notre vie était entièrement impure, entachée par le péché. Nous étions ennemis de Dieu, mais à la croix, nous avons été rendus purs par le sacrifice de Jésus. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Et c'est parce que Dieu nous a purifiés et nous a rendus saints en Jésus que nous pouvons nous sanctifier et vivre en homme qui lui appartiennent aujourd'hui. C'est encourageant, n'est-ce pas? Parce que Dieu nous a sanctifiés et purifiés. Nous pouvons vivre une vie qui lui honore. Le deuxième domaine de progression que nous allons voir ce matin, donc nous avons le premier, la sainteté, la deuxième que nous allons voir, c'est au chapitre 9 à 12. L'amour fraternel. Paul encourage les Thessaloniciens à progresser dans l'amour fraternel. Lisez avec moi le verset 9 à 12. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs de la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous serez dépendant de personne. L'encouragement de Paul ici contraste avec la mise en garde concernant la débauche. Les croyants doivent s'abstenir de toute affection immorale pour la remplacer par l'amour fraternel qui se différencie de la conduite et des motifs les plus purs, Nous devons remplacer tout ce qui est immoral, les mauvais désirs, par l'amour fraternel. Et nous trouvons ici quelques affirmations, les mêmes que nous avons vues un peu plus haut. Paul affirme que les Thessaloniciens n'ont plus besoin d'être enseignés sur l'amour fraternel, parce qu'ils connaissent déjà cet enseignement. Il y a une différence ici. C'est que Dieu lui-même, cet apprentissage, l'ont reçu de Dieu lui-même. Lisez avec moi le verset 9. « Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. » Alors une autre affirmation aussi qu'on peut retrouver ici, et qu'ils pratiquent déjà cela. Paul leur dit qu'ils pratiquent déjà cela envers les frères et sœurs. Mais si on regarde le texte, on peut voir que ils pratiquent même puissance 10, je vais dire. Ils pratiquent ça encore plus parce que ils aiment leurs frères d'un amour fraternel, pardon, ne s'arrête pas seulement à leur ville, mais va dans toute la Macédoine entière. Et pourtant, Paul les encourage à progresser encore et encore. Alors j'ai essayé de me mettre dans la peau des Thessaloniciens et je me suis demandé, mais comment aurais-je réagi en recevant une lettre semblable? Comment aurions-nous réagi si nous recevions une lettre semblable? On nous félicite parce que nous sommes droits dans nos bottes, mais c'est pas assez. Il faut toujours en faire plus. Alors dans un premier temps, comment on réagirait? On pourrait être déçu, on pourrait être triste. Mais si nous lisons bien, on verrait que l'auteur est plein d'amour et de douceur envers nous. Ce qu'il cherche, c'est le meilleur pour nous. En plus, il ne nous laisse pas sans solution. Il nous encourage et nous dit comment faire. Paul ici est conscient des questions que se posent les frères et sœurs concernant le retour de Christ. Il était conscient que cela pouvait être un piège pour eux. Cela pouvait les pousser à être moins attentifs à leur conduite, parce que leur pensée était ailleurs. Nous lisons au chapitre suivant que Paul demande aux frères et sœurs de reconnaître ceux qui travaillent parmi eux, qui les dirigent dans le Seigneur et qui les avertissent. Nous pouvons en déduire que Paul écrit aussi suite à un manque de considération peut-être des gens vis-à-vis des dirigeants. C'est pour cela que Paul les motive à persévérer dans leur manière de vivre, dans la recherche de la paix avec chacun. Persévérons dans la recherche de la paix avec chacun. Paul les exhorte à s'aimer davantage, mais pas moins. Paul les exhorte à s'aimer davantage, mais pas moins. Comme ils l'ont fait dans le passé, ils doivent vivre dans l'espérance du retour de Christ, mais sans perdre la priorité de l'amour. Le verset 11 s'adresse directement à nous aussi. Nous devons nous efforcer de rechercher la paix avec chacun de nos frères et de nos sœurs. Nous devons rechercher la paix avec chacun de nos frères et de nos sœurs. Alors je voudrais nous encourager ce matin à rechercher la paix d'une manière pratique et concrète. Alors c'est facile de lire ce verset et de se dire « Ah oui, il faut chercher la paix avec les frères et sœurs, oh, c'est bien ça !» Mais est-ce que nous le faisons réellement dans nos vies? Est-ce que nous recherchons vraiment la paix avec nos frères et sœurs? Si vous avez de l'amertume envers un membre ce matin, si un membre vous a blessé d'une manière consciente ou inconsciente, ne laissez pas l'amertume prendre le dessus dans votre vie, mais plutôt l'amour, que l'amour prenne le dessus sur l'amertume. Allez trouver cette personne après le culte. Priez ensemble et demandez à Dieu d'apaiser vos tensions. Faites-le, ne laissez pas, s'il vous plaît, du temps. Et si la personne est absente ce matin, aucune excuse. Et ne vous dites pas, ah, mais quand je la rencontrerai la prochaine fois. Non, on a tous un smartphone maintenant, un téléphone. Téléphonez, demandez pour prendre un temps avec cette personne. Réconciliez-vous avec lui. Recherchons la paix. Recherchons la paix avec nos frères et nos sœurs. Pas pour nous glorifier nous-mêmes. Pas pour faire ça devant tout le monde. Pas pour que les gens de l'extérieur nous voient. Mais pour que Dieu soit glorifié, pour que notre conduite glorifie Dieu qui nous a tout donné. Alors nous ne devons pas non plus rester les bras croisés, mais nous devons nous occuper de nos propres affaires, comme nous dit le texte, et travailler de nos mains, afin de ne dépendre de personne et de n'être une occasion de chute pour personne. Or cela est encore un signe d'amour aussi, parce qu'en faisant cela, nous ne puisons pas dans les réserves de notre frère. Nous avons appris de Dieu à nous aimer les uns les autres. Alors mettons-le en pratique. Alors nous avons des multiples manières de montrer notre amour envers les frères et les sœurs. Des petits exemples ici pratiques, mais un petit SMS par exemple pour prendre des nouvelles. Alors je sais que les jeunes maintenant, je vise Camille ou les autres, ont facile à envoyer des SMS pour prendre des nouvelles. Et les femmes aussi je pense, mais les hommes on a peut-être plus difficile à un petit coup de téléphone, si on n'aime pas les SMS, un petit coup de téléphone. Mais prenons des nouvelles de nos frères et sœurs. Et ceux qui préfèrent, je sais qu'il y en a qui le font, des cartes postales par exemple, à l'ancienne, pourquoi pas une petite carte d'encouragement. Proposons de l'aide aussi aux malades, aux personnes âgées. Peut-être juste faire leurs courses, aider à leur faire le nettoyage. Il y a plein de manières d'aider. Priez les uns avec les autres. Priez les uns avec les autres. Priez les uns pour les autres, mais priez les uns avec les autres. Et pas attendre des réunions de prière pour le faire. Pas attendre d'avoir des moments bien précis pour le faire. Si notre frère est dans le besoin, si notre frère est triste, si notre frère a une joie, on ne prie pas que pour le demander à Dieu. Mais si notre frère nous dit le dimanche, mais voilà, je me réjouis parce que cette semaine j'étais béni pour ça. Prions et glorifions Dieu pour ça ensemble, directement, ne pas attendre. Prions les uns pour les autres. Prions les uns avec les autres. C'est une manière de pratiquer l'amour fraternel et de grandir dans ce domaine. Passons plus de temps ensemble, les uns avec les autres. Passons plus de temps, et pas d'une manière passive, mais d'une manière en aimant, en s'aimant les uns les autres. Alors, dans le dernier verset, le verset 12, nous voyons que cette progression dans l'amour a aussi pour but que notre manière de vivre ne soit pas un frein à l'annonce de l'Évangile. Relisons le verset 12 ensemble. « Ainsi, notre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur, et vous ne dépendrez, et vous ne serez dépendant de personne. » Si nous annonçons au monde pécheur que Christ est mort et ressuscité pour eux, alors notre conduite intègre doit rendre cette bonne nouvelle crédible. La priorité de Jésus quand il est venu sur terre, et vous pouvez voir ça dans les évangiles, était de prêcher la bonne nouvelle. La priorité de Christ était de prêcher la bonne nouvelle. Et les foules étaient pendues à ses lèvres. Les foules croyaient ce que Jésus disait, ce qu'il annonçait. Parce que sa vie était conforme à son enseignement. Imaginez-vous que votre meilleur ami dise qu'il est végétarien et que c'est ce qu'il y a de meilleur pour sa santé. Mais que chaque fois que vous allez au restaurant avec lui, il prend un steak frites salade. Ou imaginez que votre meilleur ami vous dise qu'elle a fait une étude, que les conclusions de son étude sont les bienfaits du sport et que cela vous empêche de tomber malade. Mais que votre ami ne fait aucun sport, même pas de la marche à pied. Seriez-vous convaincu de ce qu'ils avancent? Seriez-vous convaincu de ce qu'ils avancent? Moi pas, en tout cas. Si nous voulons que la bonne nouvelle que nous annonçons soit convaincante, nous devons nous-mêmes la vivre. Alors on va conclure. Et nous venons de voir que si nous restons attachés, rappelez-vous la source, si nous restons attachés à la parole de Dieu, nous pourrons vivre avec l'aide du Saint-Esprit et progresser dans la sainteté et dans l'amour fraternel. Mais pourquoi? Pourquoi? Dans quel but? Tout à l'heure, nous avons lu une partie d'un verset qui se trouve dans le chapitre suivant de la lettre et j'aimerais qu'on le relise ensemble au complet. Donc, au chapitre 5, au verset 23. Chapitre 5 de 1 Thessaloniciens, verset 23. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, pourquoi? Pour qu'il soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous attachons davantage à Christ, si nous dépendons davantage de lui, pourrons-nous éviter de succomber plus facilement à la tentation? Évidemment, c'est sûr. Ne faites pas comme moi lors du concours de pâtisserie. Ne restez pas sur vos acquis. Mais efforcez-vous de progresser, de persévérer, afin de plaire davantage à notre professeur et maître Dieu, et d'être prêt lors du concours final, le retour de Jésus-Christ. Prions. Merci Seigneur parce que ta parole est vie, Seigneur. Ta parole est source, Seigneur, d'enseignement pour nous, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te demander pardon, Seigneur, si trop peu souvent, Seigneur, nous lui donnons l'importance, Seigneur, qu'elle doit avoir dans nos vies. Seigneur, aide-nous à la méditer, Seigneur, encore plus. Seigneur, aide-nous à pouvoir plonger nos regards dedans, Seigneur, et à pas seulement, Seigneur, lire pour lire, Seigneur, mais à vraiment rechercher, Seigneur, avec l'aide de ton Saint-Esprit, Seigneur, ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous enseigner, Seigneur, que quand nous entendons la parole, Seigneur, que ce soit ici le dimanche, que ce soit ailleurs, Seigneur, que nous demandions, Seigneur, dans quoi tu veux que nous progressions dans notre marche avec toi? Qu'est-ce que tu veux changer dans nos vies, Seigneur? Seigneur, nous avons vu deux domaines, Seigneur, que nous avons abordés ce matin, Seigneur, la sainteté, Seigneur, et l'amour fraternel. Seigneur, aide-nous à progresser en sainteté, Seigneur, aide-nous à nous éloigner des mauvais désirs, Seigneur, aide-nous à aimer nos frères davantage, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à aimer mes frères, Seigneur, à me prendre des nouvelles pour eux, à prier avec eux, Seigneur. Seigneur, nous implorons ton aide, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi, Seigneur. Merci parce que tout cela est possible, Seigneur, pas par nos propres forces, Seigneur, mais parce que un jour, Seigneur, tu es venu sur cette terre, Seigneur, tu t'es fait homme, Seigneur, tu as donné ta vie, Seigneur, pour nous. Et nous voulons te louer et te remercier pour cela ce matin, Seigneur. Que tu puisses bénir chaque personne présente ici, Seigneur, que nous puissions progresser davantage chacun, Seigneur. Amen.